Avoir raison avec Toni Morrison. Quatrième épisode, l'héritage politique et mémoriel.
I think I'm getting close to making it possible.
Je pense m'approcher d'une situation où il soit possible pour les lecteurs blancs, les lecteurs noirs, d'aborder une œuvre littéraire sans toutes ces barrières. L'esprit ouvert, voir par eux-mêmes qui sont ces gens, des bons, des méchants, intelligents, idiots, mais sans préjugés, fondés sur le racisme.
Écrire sans préjugés fondés sur le racisme, voilà sans doute l'idéal que formulait Toni Morrison à la fin de sa vie. Elle qui s'était donnée pour défi d'écrire assez bien pour que la question raciale soit importante, tout en ne l'étant pas, et qui, dans ses derniers romans, en était même arrivée à effacer toute référence à la couleur de peau de ses personnages. Transformer le silence en mots, réfléchir de manière incarnée ou théorique à ce que recouvrent le corps noir et le corps esclave, aux stigmates de l'esclavage, au pouvoir de vie sur d'autres vies, le faire à travers des personnages de romans et se faisant déconstruire les stéréotypes et montrer toutes les nuances de la peau noire, comme elle le disait, tel était le pari de celle qui fut, rappelons-le, la première femme africaine-américaine à remporter la plus haute récompense littéraire, un pari qui confère à son œuvre une dimension que l'on pourrait qualifier d'universelle. Comment ces réflexions ont-elles traversé l'Atlantique et comment des hommes et des femmes s'approprient cette pensée pour poursuivre à la fois le combat contre le racisme et pour la mémoire de l'esclavage ? Cet universalisme de Toni Morrison est-il partagé aujourd'hui par de nouvelles générations de militants qui reprennent publiquement le flambeau d'un combat que l'écrivaine avait d'abord voulu littéraire ? Telles sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités. Je suis très heureuse d'accueillir en studio Maboula Soumaoro. Bonjour. Vous êtes docteur en civilisation du monde anglophone, maîtresse de conférences à l'université de Tours, autrice de Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire qui a paru aux éditions La Découverte. Et Audrey Célestine, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes politiste, maîtresse de conférences en études américaines à l'université de Lille, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On vous doit déjà quelques ouvrages, Une famille française, sous-titré Des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie, c'était chez Textuel en 2018, ou encore La fabrique des identités, c'était chez Cartala. Le prochain paraîtra à la rentrée aux éditions L'Iconoclaste sous le titre Au combat, 60 femmes noires, libres et inspirantes, un livre dans lequel on trouve notamment le portrait d'une certaine Toni Morrison. Alors je vais commencer par vous, Audrey Célestine. Est-ce que Toni Morrison est une figure dont vous pouvez vous revendiquer ?
Absolument. Je pense que pour beaucoup de lecteurs ou lectrices qui n'étaient pas forcément très attentifs à la lecture des ouvrages de Toni Morrison, le moment de sa mort a été un moment très important. Parce que d'un coup, on a eu une soif de retourner vers cette femme qui avait pu nous marquer, dont on savait qu'il y avait quelque chose de très fort. Et on a aussi pris la mesure du fait que cet impact sur les vies, il était très général, qu'on était des dizaines et des dizaines de milliers à en fait avoir cette espèce de rapport très particulier, à vouloir s'approprier complètement Toni Morrison. C'était particulièrement le cas pour les femmes noires qui se sont aussi reconnues non seulement dans une figure publique, mais également dans une manière d'écrire le monde, de développer un imaginaire. Mais je pense que ça dépassait très très largement cette catégorie de la population.
Maboula Soumaoro, même question. Est-ce que vous pouvez vous revendiquer de Toni Morrison aujourd'hui ?
Oui, je pense que déjà, ça fait un moment que je me revendique de Toni Morrison qui s'inscrit dans toute une tradition littéraire, politique, féministe, dans toute une généalogie. Donc on la suit, on la connaît depuis longtemps. On a eu accès, et que ce soit à ses œuvres ou à toute la critique littéraire autour de ses œuvres. Donc c'est quand même l'un des monuments. Toni Morrison est décédé à 81 ans. Je pense, donc elle a eu une vie assez longue.
Un peu plus
longue.
Même, 88.
Oui, 88, ah, donc je me suis trompée de date, excusez-moi. Donc une vie assez longue et assez riche, enfin et tellement riche que c'est vraiment la personne qu'on ne peut pas éviter intellectuellement. Et ensuite, oui, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la lire et à la suivre dans ses activités, pas seulement littéraires. Justement, je trouve qu'elle va au-delà de ce monde littéraire et que sa stature et le symbole qu'elle a incarné jusqu'à sa mort est vraiment ce qui, enfin, fait partie de cet héritage dont je crois que vous voulez parler aujourd'hui.
Tout à fait. Quel a été pour vous, Maboula Soumaoro, le geste politique de Toni Morrison?
Le geste politique, à mes yeux, c'est vraiment son travail d'éditrice. C'est ça. On va dire qu'il y a plusieurs gestes politiques. Il y a son écriture qui, d'ailleurs, arrive avec, l'œil le plus bleu et cette entrée fracassante dans une intimité peut-être presque insoupçonnée ou pas souvent octroyée à ces Africains-Américains. Donc il y a quelque chose de très fort dans la façon de dire les choses et d'affirmer une humanité, même lorsque cette humanité se trouve dans des corps noirs. Et dans des corps africains-américains. Donc ça, c'est politique autant que littéraire. Mais ensuite, et bien avant, il y a tout ce travail d'édition, c'est-à-dire devenir éditrice, assez haut placée chez Random House aux États-Unis, et se mettre en tête de faire paraître, de publier des ouvrages et des auteurs, parfois connus, parfois moins connus, de les lancer et de les inscrire, en tout cas de leur donner une sorte de chance à l'exposition. Un peu moins confidentielle, et ça c'est très important, je trouve.
Elle voulait, Audrey Célestine, dépasser la question raciale. Elle voulait pas qu'on dise qu'elle faisait une littérature noire, et en même temps elle a voulu constituer les noirs en sujet. C'est toute la complexité de son entreprise littéraire. Comment voyez-vous, vous personnellement, cette volonté à un moment d'effacer la couleur de peau de ces personnages? Est-ce que vous diriez que c'est une forme d'universalisme ou c'est autre chose qui s'est joué là?
Mais je pense que Toni Morrison, qui était quand même une lectrice très attentive de l'histoire, des sciences sociales et humaines, tout en développant une œuvre littéraire, avait quand même fortement conscience de la genèse de ces catégories raciales qui sont au départ des catégories d'assignation et de domination. Elle était très consciente de ça, et de fait, je pense qu'il y a peu de gens qui n'ont pas pour objectif la mise à bas de ces assignations. Pour autant, elle avait aussi, parce qu'elle avait cette connaissance de l'histoire, cette volonté de d'abord passer, non pas par des étapes de déni et d'invisibilisation de choses qui sont bien là, matérielles, dans le monde réel, mais d'avoir ce travail d'éditrice, effectivement, d'avoir dans l'idée de former aussi une forme de canon littéraire qui serait constitué par des écrivains noirs américains, dans l'idée d'aller chercher vraiment des artistes, des auteurs, d'écrire elles-mêmes, de construire une sorte de subjectivité imaginaire noire, mais qui soit ancrée dans l'histoire, mais avec quand même la forte conscience de ce que sont au final les catégories raciales, et avec cette idée, parce qu'elle avait quand même, c'est une artiste, c'est une femme libre, cette idée d'aller au-delà de ça, avec cette idée que le but ultime est quand même le démantèlement de ces catégories-là. Et c'est vrai que c'est une chose dont on a un peu de difficulté à prendre la mesure en France, cette idée qu'on peut passer par justement un ancrage, d'aller au plus profond de ce que ça veut dire réellement, concrètement, qu'est-ce que ça fait que d'être une personne noire dans le monde actuel, pour ensuite déconstruire tout cela.
Maboula Soumaoro, même question.
Oui, je pense que vraiment c'est une question d'équilibrage et de dosage. Il y a vraiment, comme Audrey Célestine vient de le dire, cet ancrage dans une culture, cet ancrage dans des terroirs états-uniens, cet ancrage dans les corps africains-américains, mais qui deviennent discours, qui deviennent histoire, qui deviennent narration, qui deviennent esthétique. Et je pense par exemple que même jusqu'à la fin, dans ses derniers ouvrages, et je pense, en espérant ne pas me tromper du titre, c'est Blessed is the Child, l'un des derniers ouvrages. Il y a peut-être que il y a cette réflexion et cet exercice littéraire avec l'économie des mots. Enfin là, on sent qu'il y a vraiment une maîtrise de l'écriture. Mais le personnage principal, dans sa présentation au monde, s'habille par exemple tout le temps en blanc. Elle s'habille en blanc et elle a un corps donc noir et elle a une peau d'ailleurs plutôt foncée et il y a ce contraste qui demeure. Donc c'est-à-dire que cette question de la du dépassement de la question raciale, il passe précisément par le fait d'assumer cette identité raciale, mais de l'assumer en faisant en sorte qu'elle ne devienne plus seulement une assignation, qu'elle devienne une manière d'être au monde et que peut-être que le dépassement, il pourrait être atteint si ces, on va dire, ces couleurs qui ont été assignées au corps ne font pas que être devenir pardon invisibles, c'est qu'elles deviennent visibles, mais elles ne déclencheront plus les mêmes mécanismes. C'est ça la question. Donc, quand on parle d'universalisme, on peut peut-être parfois approcher la notion de manière assez presque naïve ou innocente, en disant on ne verra plus rien. Et si on essayait de voir des choses et de ne pas associer...
Commencer par voir
et même en continuant de voir, puisque le regard a déjà été modelé, il a été formé. Et est-ce qu'on peut voir de la beauté dans ces choses qu'on voit? Est-ce qu'on peut voir de la valeur? Est-ce qu'il s'agirait simplement de ne plus rien voir et de dire que tout est pareil? Qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Et s'il y a une différence et qu'elle persiste même en étant visible à l'œil nu, est-ce qu'on peut la respecter? Est-ce qu'on peut la regarder? Est-ce qu'on peut la rendre complexe? Est-ce qu'on peut la accepter sa richesse et sa beauté? C'est vraiment
Peut-être, du coup, ce qu'on en fait ici aussi, puisque je posais la question comment cette réflexion ont traversé l'Atlantique. Vous-même, vous en faites quelque chose d'assez personnel, toutes les deux, hein, d'ailleurs, de façon différente, aussi bien dans vos travaux de recherche que dans vos ouvrages. Je pense au vôtre, Audrey Célestine, sur une famille française des Antilles à Dunkerque en passant par l'Algérie, qui retrace justement un parcours familial et généalogique. Vous êtes d'origine martiniquaise. Vous, Mabula Soumaoro, vos parents, votre famille étaient ivoiriens ou sont ivoiriens, parce que ils sont encore, j'espère pour vous, vivants. Et c'est très important pour vous. Et là, vous dites, Toni Morrison, finalement, elle est afro-américaine. Ses romans se passent aux États-Unis. On parle des Noirs américains hantés par l'esclavage. De ce côté-ci de la France, on parle plutôt de colonisation. Et donc, il y a des différences. Et dans votre livre à vous, Mabula Soumaoro, Le triangle et l'hexagone, vous montrez bien à quel point c'est différent d'être noir aux États-Unis, d'être noir en Afrique, d'être noir en Europe, en France, en l'occurrence. Sur cette question, j'aimerais vous faire écouter la chercheuse Vanessa Sylvanise, qui était invitée de la Compagnie des auteurs en octobre 2018. Elle est spécialiste de l'œuvre de Toni Morrison, auquel elle a consacré sa thèse, Toni Morrison et Derek Walcott. Écoutez ce qu'elle dit de la différence justement d'être noir ici ou là-bas.
Toni Morrison, elle est donc afro-américaine ou africaine-américaine, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'elle vient d'une histoire où l'esclavage s'est passé sur le territoire. Elle vient aussi d'une tradition littéraire où les Noirs, les esclaves et leurs descendants ont pu écrire leur propre histoire à travers les slave narratives, les récits d'esclaves. Mmh. Il y a quand même avant elle aussi de grands auteurs, Langston Hughes, Ralph Ellison, là j'en passe hein, vraiment. Et on sait bien aussi, je pense qu'on a conscience en France aussi que noir aux États-Unis c'est quelque chose de très affirmé. On est soit justement, il y a la goutte de sang qui fait la différence, hein. Vous pouvez être métis ou paraître blanc, mais en fait vous avez la goutte de sang, vous êtes noir. Mm-hmm. C'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas aux Antilles. Aux Antilles, il y a une hiérarchisation de la couleur. Il y a en effet aussi, disons pas cette goutte de sang, mais le fait en effet que vous êtes descendant d'esclaves, mais on n'est pas, si vous voulez, dans une scission dichotomique tranchée. On est dans quelque chose qui s'échelonne et qui échelonne justement le racial aussi. Donc plus on se rapproche évidemment du blanc, et mieux c'est. Plus on est proche de la beauté, déjà, plus on est proche du pouvoir.
Mabula Soumaoro.
Oui, je pense que c'est une analyse assez, juste de la situation dans les Antilles et dans d'autres territoires qui se situent hors de la France hexagonale. Moi, mon objet d'étude et ma réflexion porte justement davantage sur cette France hexagonale. Évidemment, on a cette question de la question raciale telle qu'elle s'est déployée dans les territoires qu'on appelle les Outre-mer et qui peut être comparée avec ces différences, évidemment, prise en compte avec la situation des États-Unis, c'est-à-dire que par la simple existence de ces territoires d'outre-mer, on parle de l'histoire coloniale française, et cette histoire coloniale inclut l'histoire esclavagiste de la France. Donc la comparaison entre les deux pays, les États-Unis et la France, est tenable. Je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui par rapport à cette comparaison. Mais ensuite, il y a quand même un autre lieu, un troisième espace, qui est celui de la France hexagonale. Et là, les questions qui vont, qui doivent être prises en compte sont plus au-delà de la présence, c'est le discours, l'imaginaire et les conséquences de ces processus de racialisation tels qu'ils ont eu lieu dans ces territoires extra-hexagonaux et comment ils se reconfigurent dans l'hexagonal. Donc on va parler, Vanessa Sylvanise parlait des Antillais dans l'exemple que vous venez de communiquer. Moi je parle de la question noire qui est une question qui va de ce fait englober et la France hexagonale et qui peut englober dans une certaine mesure les territoires qu'on appelle ceux d'outre-mer et les États-Unis. Enfin, avec cette identité noire, on rentre dans ce monde transatlantique.
Et puis c'est différent, mais il y a quand même des liens de connexion.
Bien sûr, c'est différent, mais on est face à cette mondialisation qui a été mise en branle à partir de ce moment clé qu'a constitué la traite négrière transatlantique.
Quelle est votre approche à vous, Audrey Célestine?
Moi, je fais de la comparaison entre la France et les États-Unis, dont j'ai tendance à rapprocher avec prudence, mais à rapprocher malgré tout les deux situations, à penser qu'on peut effectivement les comparer, que d'une part, effectivement, l'esclavage, c'est une histoire transnationale et que dans l'histoire plus contemporaine, les circulations d'images, de slogans, le fait de trouver des référents outre-Atlantique pour ceux qui sont en France hexagonale, aux États-Unis dans les Amériques de manière générale, c'est un phénomène qui effectivement est assez ancien et continue encore aujourd'hui. Et en même temps, effectivement, la question de la race dans la citoyenneté française, dans l'espace national français, il est aussi très très ancré à une histoire très nationale. Et c'est faire cet équilibre entre ces deux dimensions qui apparaît très compliqué. Mais je pense également, oui, que de fait, le racisme, il advient pas exactement de la même manière dans les deux pays, dans l'ensemble de ces espaces-là, mais qu'il se configure toujours par une forme de suprématie blanche, avec après des niveaux de sophistication dans les catégories raciales qui sont pas exactement les mêmes, et que dans tous les espaces, on est face à cet enjeu-là. On est face à une forme de colorisation, à une invention du blanc et du noir qui touche l'ensemble de ces espaces. Alors après, qui vont se développer selon que les esclaves soient majoritaires, soient minoritaires, selon tout un ensemble d'éléments. Malgré tout, on est quand même face à une histoire qui, dans de larges dimensions, est une histoire commune et transnationale.
Maboula Soumaoro.
Oui, je pense que c'est vraiment la question de la dispersion et la question de la diaspora. Et évidemment, la France n'est pas les États-Unis, qui ne sont pas le Brésil, qui ne sont pas la Jamaïque, qui ne sont pas, je sais pas, la Martinique, ou on pourrait même aller jusqu'à la Réunion, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette question de la dispersion et dans ce contexte de ce qu'on appelle l'histoire moderne a donné lieu à de nouvelles identités humaines, c'est-à-dire qu'avant ce moment précis de l'histoire, les êtres humains ne se définissaient pas sur la base de la couleur de la peau et sur la signification qui était donnée à ces couleurs de peau. On pouvait avoir des définitions sur la base de l'ethnicité, sur la base du lieu de naissance, auparavant sur la base du régime alimentaire, sur la base du niveau de civilisation. Quand on parle de cette ère moderne, on parle vraiment de l'invention, comme l'a dit Audrey Célestine, du noir et du blanc, pour rester schématique, et tout ce qui existe entre ces deux extrêmes. Et c'est vraiment avec ces questions-là et ces fabrications-là, ces inventions-là que nous devons faire et que nous devons peut-être défaire aujourd'hui. C'est ça la question. Et après, évidemment, par endroit, par contexte, parce que l'Espagne n'est pas le Portugal, qui n'est pas les Pays-Bas, qui n'est pas le Danemark ou la Grande-Bretagne, chaque pays, chaque puissance aura ses spécificités locales, c'est-à-dire ses spécificités nationales. Mais en tout cas, cette traite a mis en branle une rencontre inédite transnationale et transcontinentale.
You don't lie about the history.
Eh bien, il ne faut pas mentir sur l'histoire. L'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique. Eh bien, cette histoire a été trafiquée, nettoyée, polie, expurgée finalement, comme si les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de regarder cette histoire sans ciller et de voir comment elle était vraiment.
Toni Morrison, qui a mis en lumière l'amnésie des Américains à propos de leur histoire, vis-à-vis de leur rapport à l'esclavage. Qu'en est-il en France? Je m'adresse à vous, Audrey Célestine, de ce point de vue-là. Vous êtes au sein donc du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. L'histoire, vous avez une formation d'historienne dans votre travail de politiste. Vous faites un peu, pas tant que ça, mais en tous les cas, dans votre travail de politiste, vous faites beaucoup référence à l'histoire. C'est important l'histoire, oui, en gros, fait, pour vous. Donc est-ce que le travail en France est encore devant nous, de ce point de vue-là? Ou est-ce qu'il est en train de se faire?
Le travail, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que le travail tel qu'il est fait depuis une bonne vingtaine d'années, je pense particulièrement au CIRES dirigé par Myriam Cotias, fait un travail absolument incroyable sur les esclavages, sur les sociétés qui sont construites dans ce qu'on peut désigner comme le post-esclavage. Depuis un moment, il reste énormément de choses à faire, mais la recherche est dynamique en France sur ce sujet. La recherche est très dynamique. Le lien avec l'enseignement secondaire n'est pas encore optimale. Il y a eu un certain nombre d'avancées, mais on en parle pas assez, vous voulez dire. C'est pas juste qu'on n'en parle pas assez, c'est-à-dire qu'on a du mal à l'envisager comme quelque chose qui est complètement interne à l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'on va envisager les empires, le Brésil, les États-Unis. Et en fait, je pense que la confusion pour beaucoup, c'est qu'on a l'impression que et l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la colonisation devraient faire l'objet de plus gros chapitres à côté. C'est pas à côté, c'est dedans, c'est l'entremêlement au fur et à mesure de tout le programme, parce que ces histoires-là, elles sont ancrées dans tout un tas d'aspects de la vie quotidienne, de la vie politique, de la vie sociale, de la vie culturelle de la France et des autres pays qui ont été esclavagistes, et que du coup, on est face à effectivement des volontés de présenter l'esclavage comme si ça flottait un peu comme ça dans les airs, ou que c'était là-bas, loin, les Brésiliens, les États-Uniens, mais que, ou alors pour la France, c'était loin, là-bas, dans la Caraïbe française. On n'étudie absolument pas la révolution haïtienne, on ne voit pas ses connexions avec l'histoire de France, alors même qu'on comprend quand même beaucoup de choses du 19e siècle, de l'entrée fracassante dans le 19e siècle, lorsqu'on étudie la révolution haïtienne.
Maboula Soumaro, je voudrais vous soumettre l'éditorial de Guillaume Goubert dans La Croix ce matin. La Croix qui fait sa une sur le colonialisme, le réveil des mémoires. Il écrit « Pour réfléchir à notre rapport à l'histoire, il est bénéfique d'avoir toujours en tête deux phrases fulgurantes de l'écrivain américain William Faulkner, auquel Toni Morrison avait consacré une thèse, dans Requiem pour une note. Le passé ne meurt jamais. Il n'est même pas passé. » Et ajoute Guillaume Goubert, l'intensité des débats des deux côtés de l'Atlantique sur les blessures dues à l'esclavage et au colonialisme montre combien notre présence s'enracine dans le passé. Il nous appartient d'apprendre à vivre avec lui. Pour y parvenir, on doit être attentif aux deux temps indiqués par Faulkner. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est très bienvenu. Je suis assez étonnée, mais c'est bien que...
Pourquoi
des analyses? Parce que en France, on a du mal avec ces questions. Moi, je serais peut-être un peu moins optimiste qu'Audrey. Finalement, bien sûr que la recherche française est dynamique sur ces questions, et bien sûr que le CIRES et d'autres centres, je pense à Christine Chivalon à Bordeaux, enfin abordent ces questions, ou même ce qui se passe dans les universités qui sont situées dans les territoires qu'on appelle d'outre-mer. Mais la question pour moi, elle est structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de la recherche, mais évidemment, quand on pense à la construction et à la fabrication de ces programmes scolaires, la question qui demeure est qu'est-ce qui est diffusé, qu'est-ce qui est appris, qu'est-ce qui est enseigné, pardon, et donc qu'est-ce qui est appris par les élèves et les étudiants dans la manière dont cette histoire, comme vient de le dire Audrey, est vraiment fait partie intégrante de l'histoire, ne peut pas être un à côté, un chapitre. Il faut vraiment repenser la manière dont nous envisageons cette histoire de France et ne pas se contenter de se réfugier derrière ces questions qui seraient liées à la mémoire ou à la lutte bassement et littéralement politique. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple qui souvent rend les gens plus calmes, plus audibles. Quand on parle de la question, par exemple, du féminisme, on pourrait dire que dans les programmes scolaires, il ne s'agit pas de se dire qu'en histoire, on va faire un chapitre sur les femmes. Et qu'une fois qu'on a fait ce chapitre sur les femmes, on a réglé la question. Non, il est question d'intégrer cette présence féminine et parfois cette présence
féministe. À tout moment.
À tous les moments. Et donc, c'est là qu'on aborde cette question du fonctionnement structurel du racisme. Donc, s'il y a des chercheurs qui publient et qui font effectuent des travaux qui sont fondamentaux, la question est celle, par exemple, de l'obtention des postes à l'université et qui va permettre, une fois que ces chercheurs sont en poste dans les universités ou même dans les établissements primaires et secondaires, comment ces personnes vont pouvoir transformer en profondeur la façon dont nous envisageons cette histoire française. C'est ça, parce que sinon, les personnes qui sont les plus à même de diffuser cette histoire ne sont pas formées sur cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à part se reposer sur de bons sentiments? Oh, j'aime bien cette histoire, ou j'ai lu un ouvrage. C'est pas un ouvrage, c'est lire des dizaines d'ouvrages sur ces questions.
On voit, Audrey Célestine, que c'est compliqué parce que aujourd'hui, par exemple, la question du déboulonnage des statues, de l'effacement des symboles de l'esclavage ou de la colonisation est très clivante. C'est ce que vous disiez toutes les deux. C'est difficile de même poser les questions. Alors là, il ne s'agit pas de poser des questions, il s'agit d'agir. Hein. Donc, comment agir? Par un travail sur l'enseignement, dites-vous toutes les deux. Peut-être aussi par un travail qui était très important, en tous les cas, pour Toni Morrison, puisqu'elle en avait fait vraiment son œuvre et sa vie, sur le langage. Un travail qui passe par des mots, donc même une action qui passe par le langage. Trouver un nouveau lexique, inventer un nouveau vocabulaire. Aux États-Unis, ne serait-ce que pour parler des Noirs, on voit bien que c'est encore un peu difficile, délicat. C'est-à-dire que on parle d'afro-américain, on parle maintenant d'African-American, on dit black, mais certains disent non, on veut pas dire black. En français, on dit noir, mais non, on n'arrive pas à dire noir. On voit bien que les mots, on y revient toujours, sont aussi très importants dans ce combat pour une certaine vérité de ce qui se passe, quoi.
Mais effectivement, un des phénomènes qui était décrit tout à l'heure par Mabula Soumaoro, c'était cette espèce de assignation raciale qui se transforme en fait en réappropriation, cette espèce de retournement du stigmate racial qui est opéré aux États-Unis où ce machin très surplombant qui écrase les gens et qui en fait des nègres est réapproprié. Et je fais un passage historique très rapide, mais voilà, où d'un coup black is beautiful, d'un coup on commence à se battre au niveau de... Ça montre tout ça que ces réappropriations, elles se reconfigurent au fil du temps. Je veux dire, l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas exactement celle du début des années 60, et avec elle, les exigences, la composition même de la population noire se transforme. Une personne assez critique de Barack Obama disait, bon, malgré tout, l'un des points positifs de l'arrivée au pouvoir de ce président, c'est qu'il a complexifié l'idée de ce que c'était qu'un noir aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est aussi lui que l'ensemble de ces transformations font que la manière de se dire, la manière de s'identifier va changer, aidé en cela en grande partie par ceux qui font œuvres littéraires, par ceux qui travaillent sur l'imaginaire et l'imagination, et par l'ensemble de ces circulations-là. Mais de fait, oui, le langage change parce que la société change, parce que qu'est-ce qu'être noir change effectivement.
On va se quitter en musique, comme chaque jour dans cette série d'Avoir raison avec Toni Morrison. Nous avons choisi aujourd'hui un hommage à Toni Morrison, puisque le titre de cette chanson, c'est Toni Morrison, chantée par Akua Naru, qui est une artiste de hip-hop américaine, et qui lui rend ainsi hommage dans un album de 2015 intitulé The Miner's Canary, le canari du mineur.
Toni Morrison's Song of Solomon.
My favorite novel.
The book was
Toni Morrison's Sula.
And I remember in the book Song of Solomon, one of my favorite books, there was a group of vigilantes called 7 Days, I believe. There was another, and they were being
killed. Toni Morrison's the book was out.
Used to wonder whose little girl am I, the fifth woman inside. Bangin' some on her mama's old 45, some core score for the bluest side. Kept that yearning low tide until Pecola bore that burden of mine. Most vulnerable kind, black girl lost and confined in that double conscious outlined by the boys of his prime. Who heard us cry when the dawn told us black was a crime? Arrest your walk with that sword in your spine. Auction off, tragic victim of time. Set the rhyme, remember me. Collective genetic took you to write that simile. Inscribe the cage, find joy through the pain and frankie. to Beverly. Trapped in a maze, made niggas and slaves, breeders and maids, made to lay your maid bed. Spread legs, sweet and masters entertainment. Prescribed invisible lives till you reframed it. Denied the white gaze, another brush to paint with.
Un grand merci à toutes les deux, Maboula Soumaoro et Audrey Célestine, d'être venues ce midi nous parler de votre Toni Morrison et des suites données à son combat. C'était Avoir raison avec Toni Morrison, Caroline Brouet, Roxane Poulain, Alexandre Fougeron à la réalisation, à la technique. Aujourd'hui, c'était Valentin Bobinet. On se retrouve demain pour la dernière en compagnie de Christiane Taubira.